Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cet épisode, en fait, l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Espagne disputé à Barcelone. Pour revenir sur ce Grand Prix, la dernière, d'ailleurs avant notre course locale à Montréal, j'accueille un des cofondateurs du groupe Facebook La Monoplace, Julien Légaré-Turcotte. Salut Julien.
Bonjour Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Les week-ends de course, c'est toujours des bons week-ends de façon générale. Donc ouais. Oui, je vais bien.
Good. Moi, j'ai encore mes jambes qui sont un peu endolories parce que le seul moment où j'ai manqué une qualification, elle était chaotique. Puis j'étais à une course de 5 km. Donc mes jambes me remercient. Alors, on va revenir sur ce Grand Prix d'Espagne, une course qui a été remportée par Max Verstappen, sa 40e victoire en Formule 1, et en plus de ça, il s'approprie le Grand Chelem, donc pole position, la victoire, meilleur tour en course, et a dominé et a mené les 66 tours de l'épreuve. Lewis Hamilton finit deuxième, George Russell parti 12e, termine troisième, Sergio Perez quatrième, Carlos Sainz cinquième, Lance Stroll sixième, Fernando Alonso septième, Esteban Ocon huitième, neuvième Zhou Guanyu et dixième Pierre Gasly. Et étonnamment, il n'y a eu aucun drapeau jaune, aucun drapeau rouge, aucun abandon, comme à Miami au final. Donc, Julien, avant de décortiquer, quelle a été ton impression globale de ce Grand Prix d'Espagne?
Ça a été un Grand Prix intéressant. On sait qu'en Espagne, normalement, il y a 40% de chance qu'il y ait une voiture de sécurité à un moment ou à un autre là, lors de la course qui soit déployée. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, comme à Miami, tu l'as mentionné. Évidemment, on pouvait difficilement s'attendre à un grand combat dans cette course-là pour la première position. C'est assez clair là, que Max Verstappen n'allait jamais être ennuyé tout au long du Grand Prix. En premier, lorsque la course a été entamée, on a vu une potentielle attaque de Carlos Sainz sur Max Verstappen, mais qui est en mesure de fermer la porte rapidement. C'était lui qui avait la ligne intérieure au virage 1, donc ça a été assez facile là, pour Max Verstappen de par la suite tout simplement creuser son écart. Lui qui finalement aura terminé 24 secondes devant Lewis Hamilton. Course intéressante, plus de dépassements qu'on a vu à cette édition du Grand Prix d'Espagne que lors des années précédentes.
Ouais.
Peut-être que la nouvelle configuration d'une des courbes aura aidé. Cependant, je m'attendais pas vraiment à mieux. Donc, encore une fois, beau Grand Prix. Pas le plus excitant, mais tout de même.
Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé ce Grand Prix. Je pense que c'est sûr, Monaco, personnellement, ça reste la meilleure course de la saison, mais je pourrais mettre Espagne deuxième parce qu'il y a eu des belles bagarres en piste. Le duel entre Hülkenberg, De Vries et Zhou Guanyu dans les premiers tours était succulent. Belle variété stratégique aussi en termes de stratégie de course aussi, ce qui était intéressant. Un peu gâché par, disons, des problèmes d'infographie avec les pneus pour savoir qui était avec quel pneu et tout ça. Mais sinon, moi, j'ai trouvé la course relativement intéressante. Ça s'est un peu effrité vers la fin. Ensuite, malheureusement, on n'a pas eu la pluie comme on le souhaitait. Alors, c'était dommage au final de ne pas avoir eu la pluie, mais c'était un Grand Prix quand même intéressant. Et pour Max Verstappen, ça a été, disons, une balade au parc assez tranquille pour Verstappen. Et puis, comme tu l'as dit au départ, attaqué par Sainz, mais ensuite jamais inquiété. Donc, Verstappen, encore une fois, je pense qu'on ne le répétera pas assez, ce pilote est une machine dans une voiture qui est une machine à gagner.
Je pense qu'on peut commencer à voir une conversation à savoir si la Red Bull de cette année n'est pas la F1 la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Je commence sérieusement à m'interroger, puis je pense qu'on peut avoir cette conversation-là. Écoute, Abdou, cette Red Bull-là est encore meilleure que la Mercedes W18, donc la Mercedes en 2019, que je croyais qu'elle allait être là, potentiellement l'une des meilleures monoplaces qu'on a vues. Mais Ferrari en 2019 demeurait un peu dans le coup, surtout en début de saison.
Ouais.
Alors que cette année, c'est une domination complète de la part de Red Bull. L'ensemble des victoires sont détenues par Red Bull. Donc, et tout indique que ça pourrait être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Écoute, on entendait en fin d'entrevue de la part de Christian Horner, est-ce que la nouvelle conception de la Mercedes, les ajustements qui ont été faits, ça vous inquiète? Et Christian Horner de répondre, ben pas vraiment. De toute façon, on a quand même terminé 24 secondes devant Lewis Hamilton.
Ouais.
Puis il a raison.
Il a raison, écoute. À part Australie, parce que ça s'est terminé derrière la voiture de sécurité, pratiquement toutes les victoires de Red Bull ont été au-delà de 20 secondes sur le pilote, ben sur la voiture, la prochaine voiture qui n'est pas une Red Bull. Donc, il y a un travail à faire pour les autres écuries pour aller rattraper Red Bull parce que, à moins d'une catastrophe, je vois très mal Red Bull et Max Verstappen échapper le ballon d'ici la fin de la saison. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui à Barcelone, même avec la nouvelle configuration, Dieu merci, et en plus, Red Bull a amené des modifications majeures sur leur voiture. Ben, pour Verstappen, ça a été absolument la normale, quoi. La normale, à part peut-être trois fois où il s'est fait rabrouer pour les limites de la piste. Mais sinon, Verstappen n'a jamais été inquiété. Il pouvait même les arrêts au puits. Je pense, dans la moyenne, c'était à peu près quoi? 2,5 secondes. Et t'as Verstappen et Perez, leurs arrêts ont été en 2,2. Donc.
Tout à fait. On a même vu Sergio Perez qui a fait un arrêt à 2 secondes pile. Je me demande si c'est pas l'arrêt le plus rapide cette année. Je croyais que l'arrêt le plus rapide appartenait à Ferrari en 2023 pour 2,2. On a vu Verstappen l'atteindre aujourd'hui, mais ouais. À 2 secondes, je crois que c'est le meilleur résultat cette année.
Ouais, je pense aussi, ouais, parce que c'est assez impressionnant. C'était assez impressionnant. Puis pourtant, bon, du côté de Verstappen, cet arrêt en 2,2, il avait personne derrière lui. Il avait, je pense, un écart de 25 secondes sur son plus proche poursuivant. Donc, qu'il fasse un 2,4, un 2,5, bien même un 2,2, ça n'aurait rien changé. Mais le fait que ce soit un arrêt aussi rapide, typique qu'on connaît de Red Bull, ben là, cette équipe est vraiment bien huilée, là. Vraiment impressionnant. Oh, Julien, ton micro.
Oui, tout à fait. Écoute, c'est une écurie qui semblait sans faille cette année. Pratiquement aucune erreur. Du côté des mécaniciens, ça a été parfait aujourd'hui. Côté stratégie également. Ça me rappelle Mercedes lors de ces années où elle dominait complètement les autres écuries. Puis là, on le voit avec Red Bull. Donc, c'est un peu le jour de la marmotte au final.
Exactement. Donc, j'ai envie de parler justement de Sergio Perez parce que je crois que pour Verstappen, on a fait le tour. Mais Perez, disons avec cette quatrième position, au moins, il vient sauver les meubles après son erreur lors de la séance lors de la Q2. Commence à sentir à se mettre un peu de pression, tu ne trouves pas?
Tout à fait. Donc, à partir du moment où Sergio Perez s'est vraiment approché de Max Verstappen dans les résultats des pilotes, je crois qu'à un certain instant, on avait seulement 6 points de différence entre les deux. C'est à partir de ce moment-là que ça commence commencer à dégénérer pour Sergio Perez. Lui qui, désormais, là, si mes chiffres sont bons, est à 117 points total. Max Verstappen, de son côté, là, 53 points de plus, donc à 170 points. Puis Fernando Alonso, qui, bon, à 99 points, est quand même en dessous là, de Sergio Perez, mais il suffit d'un mauvais résultat de Sergio Perez et d'un excellent résultat de Fernando Alonso pour que l'écart là, soit pratiquement réduit complètement. Donc, effectivement, si je me rappelle bien, Sergio Perez a commencé, avait obtenu une 12e position en qualification. Ou peut-être une 11e, Abdou, tu me corrigeras. Mm-hmm. Et puis, effectivement, vient sauver les meubles en obtenant une 4e position, ce qui lui offre quand même quelques points intéressants. Par contre, il n'aura jamais été en mesure de venir gêner soit George Russell ni même Lewis Hamilton. Là. Sergio Perez qui a quand même terminé à 35,812 secondes derrière Max Verstappen. Donc, ça n'a pas été une performance exceptionnelle et peut-être que Sergio Perez commence à sentir le roussi, là, surtout si Fernando Alonso devait finir par le dépasser dans le classement des pilotes.
Ouais, exact. Puis moi, je dois dire quand même que au moins aujourd'hui, Perez a été exactement le Sergio qu'on connaît. Bon, dans la gestion des pneus aussi, dans une course qui était stratégiquement différente de pas mal tout le monde. Et je trouve aussi que, justement, le fait qu'il ait profité d'un Carlos Sainz un peu en difficulté, ça a au moins mis moins de pression pour finir dans le top 5. Je crois que je voyais Perez finir dans le top 5, mais quatrième, c'est quand même un très bon résultat dans les circonstances et pour, disons, oublier en fait la journée de samedi. Par contre, il va falloir pour que Perez revienne dans la course au titre, il va falloir que Verstappen ait de course assez difficile et je ne pense pas que ça va arriver de si tôt.
Je viens mitiger un petit peu la performance de Sergio Perez de mon côté. C'est vrai qu'à partir de la 11e position puis terminer 4e, c'est très bien, là, on s'entend. Mm-hmm. Cependant, lorsqu'on constate que George Russell, dans une Mercedes, a commencé en 12e position puis a obtenu une 3e position, on dirait que de mon côté, ça vient vraiment nuancer la performance de Sergio Perez parce que, bon, peut-être que George Russell aurait pu remporter le titre du meilleur pilote, du pilote du jour. Oui. Ça a été accordé à Hamilton, puis c'est tout à fait louable. Là. Je pense que lui également méritait d'obtenir ce titre-là. Mais en raison peut-être de la performance de George Russell, on dirait que je suis un peu moins impressionné par le résultat de Sergio Perez aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Et justement, on va parler des Mercedes parce que ça a été, non seulement en parlant de George Russell, ça a été une excellente course de sa part. Petit point faible, à part peut-être le contact en qualification qui était un mini Espagne 2016. quelle pluie, George! Quelle pluie!
Quelle pluie, hein? Visiblement, elle venait seulement de son casque.
Et voilà, ouais.
Malheureusement pour lui, je ne sais pas s'il souhaitait avoir de la pluie. Peut-être que, s'il y avait eu de la pluie, il y aurait potentiellement eu un safety car. Et là, ensuite, Max Verstappen aurait eu une pénalité de 5 secondes à force de se faire avertir d'avoir dépassé les limites. Donc, finalement, George Russell peut se battre contre Lewis Hamilton pour obtenir la victoire en Espagne. Évidemment, je dérape complètement, là, mais quelle pluie, George!
Ouais, hein? Ouais, hein? Ouais, hein, c'est. Ouais. Mais en tout cas, moi, je dois dire que comment je dirais ça? Confondre pluie et sueur.
C'est pas prestigieux.
Merci Manique. Effectivement, ça a pas d'envergure.
Ouais, c'est ça. Ça part d'envergure. C'est pas précis.
Évidemment, là, la pluie sur le circuit de Catalunya, sincèrement, ça ne l'intéressait pas.
Exact. Ça ne l'intéressait pas. C'est pas prestigieux. Ouais. Mais plus sérieusement, je pense que Russell a fait un excellent travail au cours de la fin, au cours de la journée aujourd'hui. Vraiment, je crois que, et avec Hamilton qui finit deuxième aussi, force est de constater que les modifications, les mises à jour sur la voiture fonctionnent assez bien, hein, c'est un bon début.
Pour Mercedes, tout à fait. Lorsqu'on les a vus faire cavalier seul, hein, du côté de l'absence complète des sidepods, et puis bon, désormais, il y en a. C'était difficile de voir vraiment le résultat des ajouts des sidepods sur un circuit comme Monaco. On ne pouvait pas vraiment apprécier le changement que ça allait opérer sur la voiture, mais je pense que ce week-end en Espagne, on l'a vu beaucoup plus. Ça semblait être une voiture qui était assez agréable à conduire. Mm-hmm. On a vu également là, plusieurs upgrades qui ont été faits sur la Mercedes en prévision de ce week-end. Donc, excellente voiture, vraiment. La Mercedes qui reprend du galon à Pointelle. Que Mercedes dans le championnat des constructeurs dépasse Aston Martin à, si je vois bien, 18 points. Là, donc, Mercedes qui a 152 points, Aston Martin qui est à 134 points et Ferrari derrière qui est à 100 points. Je pense si la tendance se maintient, on pourrait voir le Mercedes qui va consolider son avance sur Aston Martin. T'en penses quoi, Abdou?
Ouais, moi, je pense que Mercedes, au moment où il disait on va avoir une voiture B, en fait, avec des pontons, je me disais, OK. Là, j'ai hâte de voir. Parce que évidemment, on s'attendait à ce que ce soit à Imola. Ils ont décidé de le faire à Monaco. Ça trompe un peu les données, mais au moins il y avait un petit aspect positif. Mais là, aujourd'hui, à Barcelone, sur un circuit qui est fait justement pour tester toute la configuration de la voiture, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. En termes de rythme de course, beaucoup mieux qu'en début de saison. Alors, moi, je commence à voir si, pour la lutte pour la deuxième place, moi, si j'étais Aston Martin, puis on en reparlera justement, moi, j'ai l'impression que, moi, si j'étais Aston Martin, là, je ferais très attention à Mercedes parce que je pense que la récréation est terminée. Mercedes va revenir aux choses sérieuses. Et je me demande même si ce serait pas soit Hamilton, si la tendance se maintient, ce n'est pas Hamilton ou Russell qui pourraient être les premiers pilotes autres que Verstappen et Perez à gagner un Grand Prix cette année.
Écoute, c'est très possible. Hein? On a vu George Russell l'an dernier remporter quand même le Grand Prix du Brésil. Mm-hmm. Je pense que l'occasion est probablement bonne pour Mercedes, surtout peut-être après le congé estival, d'arriver avec une voiture là encore plus modifiée, d'être en mesure de capitaliser les modifications qui ont été effectuées sur le véhicule. C'est pas compliqué là, il suffit que Max Verstappen ait un enjeu sur son véhicule ou ait un accident et puis Mercedes voire Aston Martin sont en excellente position pour remporter une victoire. Cependant, je suis d'avis que à l'heure actuelle, il semblerait que Mercedes est peut-être un peu plus en mesure de l'obtenir, surtout avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Deux pilotes qui ont été extrêmement forts. Oui, effectivement, la récréation est terminée pour Aston Martin et s'il souhaite obtenir la cagnotte pour l'écurie qui a terminé deuxième dans le championnat des constructeurs, on parle quand même de plusieurs millions de dollars de différence avec la troisième position. Il va vraiment falloir là, que l'écurie, du moins, continue sur sa lancée du début de saison, mais se méfie beaucoup plus de Mercedes.
Mm-hmm. Et avant de parler d'Aston Martin, il faut qu'on parle de Abdou, roll the tape.
It's the history of the
Ferrari.
C'est une gang de pas bons là-dedans.
Aïe, aïe, aïe.
Iriez-vous, vous?
Iriez-vous, vous, chez Ferrari? C'est ce que je dirais à Lewis Hamilton. Parce qu'en ce moment, là, si bol. Moi qui pensais que... Aïe, aïe, aïe.
Au risque de faire une autre référence à Daniel Bélanger, des fois, lorsque je regarde les résultats de Ferrari, je me dis, Julien, sèche tes pleurs. Je vais en faire une autre.
Wow! Hey, ouais, c'était bien placé. C'était bien placé. Ouais, ouais. Non.
Désastreux pour Ferrari. Hein? Désastreux, je veux dire. Bon, Carlos Sainz a quand même réussi à obtenir une cinquième position. C'est intéressant. Je veux dire, ça lui donne 10 points. Charles Leclerc, un week-end tellement oublié, oui. Une 19e position en qualification, c'était monstrueux. Pour finalement terminer 11e, donc tout juste en dehors des points. C'est sûr que Charles Leclerc commençait la course au puits hein, avec des modifications majeures qui ont été faites toute la nuit à l'arrière de la Ferrari. Je pense qu'on parlait de système électronique, de suspension. Même, je me demande si la boîte de transmission n'a pas été changée sur la Ferrari de Charles Leclerc. Bref, vraiment des changements majeurs qui ont été effectués sur son véhicule. Quel week-end à oublier.
Ouais.
100 points pour Ferrari dans le championnat des constructeurs. Puis si on va regarder du côté des pilotes, alors Carlos Sainz est désormais devant Charles Leclerc. Carlos Sainz en 6e position avec 58 points.
Mm-hmm.
Charles Leclerc avec 42 points pour un total de 100 points. Et c'est quoi le problème chez Ferrari, Abdou?
Vous êtes une gang de pleurs, je vous méprise profondément.
Je sais pas lequel des deux. Je sais pas lequel des deux va dire ça, là, mais il y a. J'étais en train d'écouter, en fait, Sam Collins dans l'émission d'après-course. Je pense que c'est. Ben, évidemment, il y a un problème opérationnel en termes de stratégie parce que. Je ne comprends pas pourquoi on fait partir les Leclerc en dur, alors que ses pneus ont du mal à prendre la température sur un circuit qui demande beaucoup pour les pneus d'ailleurs. Et aussi, il restait un trait de pneu médium neuf à Leclerc. Ils sont allés entendre. Donc ça, il y a un problème stratégique. Mais aussi le fait que, je pense, même avec ou sans les nouvelles modifications, cette voiture mange trop les pneus. Je pense que c'est ça qui joue. Ah oui, puis aussi le manque de rythme aussi.
Oui, tout à fait, Abdou. Et on a vu quand même vraiment une différence là, entre la façon dont les pneus se dégradaient sur la Ferrari aujourd'hui, mais sur les deux Ferrari, versus... sur les Mercedes, à quel point la gomme tendre a été performante et une longévité exceptionnelle sur les Mercedes. J'ai été vraiment impressionné. Je pense que je me suis mépris tantôt. J'ai mentionné que Charles Leclerc, c'était sa transmission qui avait été changée. Bref, c'était plus sa boîte de vitesse et les cassettes. Tout de même, j'en profite pour me corriger. Ferrari, cette voiture-là, comme tu le mentionnes, semble avoir d'immenses difficultés avec les pneus. Contrairement aux autres écuries, écoute, lorsque je regarde à quel point, surtout la gomme dure cette année, semble être performante sur plusieurs voitures, une résistance exceptionnelle. On dirait que chez Ferrari, c'est toujours différent, toujours des problèmes d'usure de pneus, beaucoup de problèmes qui proviennent de l'arrière du véhicule. Bref, c'est un bon point que tu mentionnes. Est-ce que depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur, tu constates un quelconque changement chez Ferrari?
Pas tant pour le moment. Parce que je me dis, les changements ne vont pas s'effectuer maintenant. Ça va peut-être venir un peu plus tard, voire même en 2024. Mais présentement, je vois pas tant de changements entre Ferrari sous Binotto l'année dernière et Ferrari avec sous Vasseur cette année. Je pense que Vasseur est en train... Oui, il y a des changements de personnel. Il y a eu quelques changements de personnel entre-temps, outre avec Vasseur, mais j'ai pas l'impression que... Il y a un électrochoc actuellement chez Ferrari. Je crois que Vasseur essaye de voir, de placer un peu ses pions pour le long terme, parce que je sais que ça va... Je pense qu'on a vu lors des essais pré-saison que ça allait être un peu plus difficile pour Ferrari. Je crois que les doutes ont été confirmés. Mais là, en plus, avec Charles Leclerc qui était juste pas là du tout cette fin de semaine, et c'est genre une performance 2020, je te dirais, du côté de... Que j'ai vu un peu pour Ferrari, c'est... T'es pas assez prometteur. Et là, je me dis, au moins avec... Bon, il y a eu quand même un aspect positif avec en qualification. Cette voiture, elle est rapide. Mais en course, c'est une autre histoire.
Non, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est sûr que, bon, effectivement, on voit pas d'énormes changements depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur. Mais pour une écurie comme Ferrari, c'est certain que les changements se feront sentir sur le long terme. On peut rien reprocher à Frédéric Vasseur sur ce sujet-là. D'autant plus que Ferrari demeure Ferrari. C'est une écurie qui est particulièrement conservatrice, assez traditionnaliste également dans sa façon de faire, dans sa gestion. Donc, évidemment, que Frédéric Vasseur ne peut pas arriver là. Faut tous les meubles à l'envers, puis décider que l'ensemble des ingénieurs de chez Ferrari deviennent allemands. Là. Ça prend beaucoup plus de temps que ça chez Ferrari. Je leur souhaite évidemment le mieux. Je ne me cache pas d'être un fan de Ferrari. Mm-hmm. Mais ça a été Spain sans le S pour moi ce week-end.
Shit! Moi qui voulais la sortir en plus, tu l'as fait, donc chapeau. Donc,
mes excuses, Abdou.
C'est correct, t'as lu dans mes pensées, mais effectivement, chez Ferrari, et pour Carlos Sainz, entre autres, Sainz was in Spain, but in Spain without the S aussi. Pace was good, hein? Le pace was good, hein, Julien?
Ouais.
Oh, pauvre Carlos. Parti deuxième, finir cinquième. Oh.
C'est ça. Encore une fois, à partir du moment où j'ai vu que Ferrari rentrait dans les puits pour faire leur premier arrêt assez rapidement comparativement à Mercedes, je me suis dit, bon, c'est certain, on a désormais le podium. On sait tout de suite que ça va être Max Verstappen suivi d'Hamilton et Russell ou inversement. D'ailleurs, cet arrêt au puits-là de Carlos Sainz, un peu prématuré à mon avis, a fait en sorte qu'on a raté une potentielle belle bataille entre ce dernier et Lewis Hamilton. J'aurais beaucoup aimé voir les deux se battre en piste. Malheureusement, je pense que Ferrari savait que Carlos Sainz ne pouvait pas rivaliser contre Lewis Hamilton lors de cette bagarre-là, compte tenu de l'état des pneus. Donc, ils ont préféré rentrer Sainz tout de suite au puits. Si je me rappelle bien, les Mercedes, de leur côté, sont rentrés au puits avec leur première gomme tendre vers le 28e lap.
Ouais, à peu près.
Si je ne m'abuse, ce qui est pratiquement quoi? 10 tours de plus que ce que Ferrari a fait sur la même gomme. Donc, à partir de ce moment-là, c'était un peu terminé pour Carlos Sainz. Ouais. À mon grand désarroi.
Eh oui, c'est vraiment dommage pour Carlos Sainz parce que ça allait être un bon week-end, surtout à domicile. Et pour l'autre pilote à domicile aussi, le projet 33 a échoué lamentablement. Garage 33, toute la numérologie numéro 33, uniquement pour finir dans une septième place un peu malchanceuse. Ça n'a pas été un bon week-end pour Fernando Alonso, même s'il marque des points. comparé à l'entièreté de la saison jusqu'à présent. Pour Aston Martin, je dirais que c'est peut-être leur, ben, c'est leur pire fin de semaine de la saison. Si on relativise un peu les attentes, Stroll a fait un très bon week-end, une belle qualification, une belle course et même retrouvé troisième après le premier tour en dépit du contact entre Norris et Hamilton. Alonso un peu à la traîne aussi, ce qui est un peu si rare quand on s'appelle Fernando Alonso. Mais Aston Martin a perdu la deuxième place, du championnat des constructeurs à l'heure actuelle.
Oui, effectivement. Donc, pire course de l'année pour Fernando Alonso qui termine en 7e position. Auparavant, sa pire position avait été plutôt une 4e position, si je me rappelle bien, qui était non pas en Australie, mais plutôt en Azerbaïdjan. Donc là, 7e position, seulement 6 points pour lui. Lance Stroll, qui a eu une excellente course, vient marquer 8 points de son côté. Termine en 6e position, évidemment. Ça a été une belle performance de Stroll qui a effectué des dépassements exceptionnels, surtout en début de Grand Prix. J'ai beaucoup apprécié la conduite de Lance Stroll. Puis mm-hmm. on se cachera pas qu'il en avait besoin. Là.
Oui.
Parce que en l'absence d'Alonso, ben comment dire, devant une moins bonne performance d'Alonso, qui n'était pas nécessairement de la faute de ce dernier,
oui.
Fallait que Stroll obtienne quand même des points. Là, ici, on a un 14 points au total. C'est quand même bien, étant donné qu'on a souvent vu, par exemple, Fernando Alonso être en 3e position, donc obtenir 15 points en 4e position, même en 2e position, et puis obtenir un beaucoup plus grand nombre de points alors que Lance Stroll est en bas du top 10. Donc, peut-être que Lance Stroll, par sa performance, est venu mitiger le résultat de Fernando Alonso. Cependant, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, avec 18 points marqués par Lewis Hamilton puis 15 points marqués par George Russell, c'est certain là, que Mercedes venait dépasser Aston Martin, malheureusement, pour l'écurie qui est probablement une de celles qui est les plus intéressantes à suivre cette année.
Ouais. Et en plus, ça tombe bien en fait que la performance de la bonne performance de Stroll aujourd'hui, ce dimanche, arrive à point parce que, évidemment, depuis le début de la semaine, il y a eu beaucoup, mais beaucoup de questions à savoir est-ce que Stroll est un boulet pour Aston Martin, étant donné ses performances, son inconstance et tout ça, le fait pourquoi il est encore en Formule 1 à cause de papa et tout ça. Mais il y a des jours où quand Stroll livre la performance, ça donne des résultats comme ça. Oui, 6e, ça a l'air minime, mais dans le cas de Stroll, c'est très bon, surtout qu'il a été troisième au maximum. Mais côté stratégie, ça a été un peu plus difficile parce que je pense que Stroll et Alonso ont fait tendre, dur, pensant que la pluie allait venir, mais qui n'est jamais venue aussi.
En effet, malgré des nuages qui étaient assez qui étaient assez sombres à certains moments, et puis un écosystème particulier dans le casque de George Russell, il y a ça a été. Je pense que effectivement Aston Martin misait beaucoup sur soit de la pluie, soit une voiture de sécurité quelconque. Ce n'est pas arrivé, même si les chances étaient quand même présentes. Aston Martin est souvent quand même assez ambitieuse en matière de stratégie et va beaucoup jouer au poker, je trouve. Cette fois-ci, malheureusement, leur tentative n'a pas fonctionné, ce qui a fait en sorte là, que pour le pilote espagnol et le pilote canadien, ça a été des résultats qui auraient pu être mieux.
Mm-hmm.
Par contre, j'ai l'impression que c'est une écurie qui va tout donner à Montréal.
Et surtout que c'est la course à domicile de Stroll, père et fils. Alors, je pense que la pression du côté de Stroll va être beaucoup plus élevée parce que la voiture est bonne. Stroll a souvent été bon à Montréal. Alors, Je crois qu'on va s'attendre à un peu plus que De Stolt pour finir plus haut que dixième. 9e, 10e, parce que ça a été ça, en fait, son range de classement à Montréal. On va parler de la pénalité à Yuki Tsunoda, parce que c'est peut-être le bout où j'ai vu l'action juste une fois, puis je l'ai pas vu en direct, malheureusement. Et je trouve la pénalité un peu sévère. Qu'est-ce que tu as... Celle sur Zhou Guanyu, pénalité de 5 secondes pour avoir forcé un pilote hors piste.
Ouais. Écoute, je l'ai trouvé sévère également parce que j'ai pas l'impression que Yuki Tsunoda a vraiment tenté de sortir Zhou Guanyu de la piste. Là. Je pense même que Yuki Tsunoda avait vraiment là, son volant qui était pratiquement crampé au maximum. Lorsque l'événement s'est produit, je me demande un peu ce que devait faire Yuki Tsunoda en l'espèce. C'est une pénalité qui est extrêmement sévère. Moi, tu vois, là, je voyais ça beaucoup plus comme un incident de course. Deux pilotes côte à côte, à pleine vitesse. Yuki Tsunoda, ben, dans les options, qu'est-ce qu'il aurait dû faire selon la FIA? Donc, freiner, parce qu'autrement, il ne pouvait pas plus tourner qu'il tournait déjà, là, selon, du moins selon ce que j'ai pu voir et lire. C'est certain que Zhou Guanyu, je veux dire, ça devait être frustrant, là, un tel événement. Lui qui, finalement, a eu une excellente course en terminant en 9e position, puis en obtenant 2 points. Mais tout de même, là, oui, effectivement, une pénalité de 5 secondes à l'endroit de Yuki Tsunoda, c'était peut-être un peu rigide.
Ouais, moi, je pense aussi, et en plus, Tsunoda a fini 12e, et aurait pu marquer des points pour AlphaTauri. Je pense aussi que c'était sévère. Et dans le pire des cas, je pense que ça aurait été mieux. Parce que quand même, je trouve, corrige-moi si je me trompe, mais les commissaires ont agi assez vite dans la séquence. Moi, j'aurais cru que Tsunoda aurait laissé la place à Zhou dans le pire des cas et tenté à nouveau un dépassement plus fair, on va dire. Mais je pense que ça a été un peu plus slam dunk du côté de la FIA d'avoir fait ça.
Oui, puis pourtant, on voit souvent la FIA cette année, depuis quelques temps même, là, qui choisit de laisser la course aller et qui va prendre une décision là, à la fin de la course. Là, ici, la décision a été prise tout de suite, puis c'était déjà une pénalité de 5 secondes. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi, Abdou. Je pense qu'une option intéressante aurait été que Yuki Tsunoda redonne la position à Zhou Guanyu. Je veux dire, oui, Zhou Guanyu est sorti de la piste en raison de la manœuvre de Tsunoda, mais il en demeure pas moins que ça n'a pas été néfaste hein, pour la course de Zhou Guanyu. Mm-hmm. Il y avait tout l'espace nécessaire pour sortir, et puis il est revenu en piste. Non, c'est pénalité sévère. J'aurais préféré voir l'option que tu viens d'évoquer.
Ouais, exact. Moi, je pense qu'on est d'accord que je pense et même universellement aussi. J'ai regardé un peu les commentaires. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que Tsunoda a été sévèrement puni. Et justement, pour une des rares fois dans cet épisode, on va parler d'Alfa Romeo parce que, my God, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est parce que c'est une équipe qui est souvent invisible. Et Zhou Guanyu a finalement offert une bonne performance à Alfa Romeo. Quand même une belle 9e place. Beaucoup dans la course aussi pour les pilotes chinois.
Oui, tout à fait. Et puis, Alfa Romeo est désormais à égalité avec Haas, avec 8 points au total dans le championnat des constructeurs, grâce notamment à l'excellente performance de Zhou Guanyu, qui en terminant 9e a obtenu 2 points. Valtteri Bottas, on n'en a pas entendu parler du tout de la course, là, a terminé 14e et puis détient désormais 4 points, tout comme son coéquipier chinois. Donc, effectivement, on n'en parle jamais d'Alfa Romeo, une écurie qui est pratiquement anonyme. Mm-hmm. Un peu comme va l'être souvent, je trouve, AlphaTauri, Williams, mais Très belle performance de la part de Zhou Guanyu à souligner. Il semble avoir fait une course, il semble avoir effectué une course qui était sans trop d'erreurs. Mm-hmm. A été en mesure là, de terminer, si je regarde, a quand même terminé devant un Pierre Gasly qui, lui, de son côté, mm-hmm. avait, surtout en début de course, une excellente performance.
Ouais.
On va lui donner, on va lui donner à Pierre Gasly. C'était quand même excellent.
Ouais.
Et a terminé, si mon calcul est bon, environ 2,6 secondes derrière Esteban Ocon. Donc, Zhou Guanyu a été dans le coup tout le long de la course.
Oui, vraiment. Vraiment. J'ai été vraiment impressionné de la part de Zhou Guanyu. Parce que normalement, Alfa Romeo...
C'est pas prestigieux.
Mais, mais aujourd'hui, on va le donner. Ça a été une excellente performance de la part de Zhou Guanyu. Bottas qui finit avant-dernier, effectivement, c'était rough pour le Finlandais. Ça a été un peu l'histoire de la...
J'ai dit 14e, oui, mais c'est avant-dernier. Tout à fait, t'as bien raison, Abdou.
Ouais, parce que c'est rough pour Bottas cette saison. Hein. Quand même, je trouve que... On n'en parle pas beaucoup, mais Alfa Romeo, pour moi, ben, c'est un peu une équipe anonyme ces dernières années, parce que à part peut-être l'année dernière, en début de saison, ça avait frappé fort, et ensuite, ça a commencé à régresser. Là, cette saison, c'est encore pire. C'est comme, c'est une chute, mais heureusement, j'espère que et je pense qu'il doit y avoir eu des mises à jour de la voiture, mais j'espère que si ça a été le cas, et surtout, mention très honorable à Ruth Boscombe, qui est la chef stratégiste chez Alfa Romeo, qui a aidé Zhou Guanyu dans la stratégie aujourd'hui, parce que elle, c'est propre. Tu sais, on parle beaucoup de Anna Schmitz, ou James Vowles aussi dans son temps avec Mercedes, et ou bien même Bernie Collins aussi chez Aston Martin, mais Boscombe est une des meilleures. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une des meilleures dans sa catégorie en Formule 1. Et ça a été exactement son œuvre. Je me souviens aussi du Grand Prix de Bahreïn en 2018 avec Marcus Ericsson qui était parti en fond de grille, mais qui a fini 9e. Ça a été l'œuvre de Ruth Boscombe aussi. Donc, ça, c'est un atout important chez Alfa Romeo qu'on ne parle pas souvent, et ça a fonctionné. Zhou Guanyu a fait le travail, mais ça a été aussi l'œuvre de la stratégie aussi.
Tout à fait. Puis quel travail difficile là, d'être stratégiste pour une écurie qui, après les arrêts au puits, on voit souvent les voitures sortir en plein trafic, hein, si on considère les emplacements généraux là, des Alfa Romeo, c'est certain qu'ils peuvent pas se battre vraiment pour un podium. Donc à chaque fois qu'une stratégie est effectuée par cette écurie là, il faut que la voiture sorte de façon à ce qu'elle puisse être devant des voitures telles que Haas, McLaren, parfois Alpine. Donc un excellent travail de leur côté ce week-end. Puis mention honorable à Zhou Guanyu qui aurait pu faire partie des candidats au pilote du jour, selon moi.
Oui. 100% d'accord. 100% d'accord. Je crois que probablement, évidemment, Russell, Perez et compagnie. Je pense, pour moi, ça a été la troisième meilleure performance de la course.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Je suis bien d'accord.
Mais à l'inverse, Lando Norris, ça a été douloureux pour lui.
Pauvre Lando Norris, donc qui commence la course tout juste derrière Hamilton. Je pense que Lando Norris a mal évalué la distance de freinage de Lewis Hamilton, ou peut-être la rapidité à laquelle le septuple champion du monde allait freiner. Ce qui a fait en sorte là, que Lando Norris est rentré à l'arrière du véhicule de Lewis Hamilton. Très malheureux.
C'est très
malheureux pour lui. Il a été obligé, évidemment, là, d'aller effectuer, de rentrer tout de suite dans les puits. Je crois qu'il a été mis sur la gomme dure, mais il y a également eu un changement d'aileron avant qui a dû être effectué. Là, donc, une course à oublier pour Lando Norris, qui avait pourtant eu une séance de qualification extrêmement prometteuse.
En plus, ouais, troisième sur la grille, ouais, c'était juste dommage. Ça fait mal pour Norris, puis... Une pensée aussi pour notre ami François Carignan qui est à Barcelone en ce moment, qui est un grand fan de Lando. Ah, ça aurait pu être un excellent résultat pour McLaren, parce qu'on voit que bon, avec leur performance qu'ils ont eu à Monaco la semaine dernière, c'était super bien. Cette troisième place donnait des espoirs. Oscar Piastri aussi, qui était dans le top 10, bon, finit 13e. C'est dommage. Il y avait une opportunité d'aller chercher des gros points chez McLaren. Et aussi, on doit dire au revoir à cette livrée spéciale triple couronne que personnellement, je donnais à 7.5, mais finalement, je vais donner à 9 parce que c'est une très belle voiture. Et personnellement, cette livrée, je l'aurais gardée pour le restant de la saison. Si ce n'était que de moi, là, je l'aurais gardée pour le restant de la saison.
Oui, tout à fait, parce que je suis d'accord avec toi. Je suis pas du tout fan de la livrée normale de la McLaren cette année. Donc, voir la McLaren avec cette livrée spéciale-là, je trouvais que ça donnait un peu un vent de fraîcheur à l'écurie. Une livrée qui est beaucoup plus belle sur piste qu'elle l'était en photo, oui. Je trouve. Donc, mm-hmm. Je suis quand même d'accord avec toi d'avoir donné initialement une note de 7.5 et finalement d'en arriver à un 9. Je pense que c'est raisonnable. Donc, course très malheureuse là, pour McLaren. Une 13e position d'Oscar Piastri, comme tu l'as mentionné. Norris, 17e avec un tour de retard au final. Je pense que Norris pouvait terminer dans le top 7, n'eût été de son incident avec Lewis Hamilton. C'était un incident de course. C'est pas du tout de la faute d'Hamilton. Mmh. Est-ce un peu plus de la faute de Norris? Peut-être, mais en même temps, c'est du first lap scramble. Ça peut arriver.
Ouais, c'est ça.
On arrive à la première courbe, beaucoup de voitures, des freinages qui sont difficilement anticipables. Malheureusement, ça a coûté cher à Norris et finalement à McLaren.
Effectivement, ouais, c'est dommage parce qu'il y avait des gros points à aller chercher. Et sinon, leur rivaux de Drive to Survive, Alpine, après une bonne séance de qualification samedi avec Gasly, bon, qui s'est qualifié quatrième et malheureusement qui a décidé de faire comme son ami Charles Leclerc et de faire deux fois plutôt qu'une bloquer Carlos Sainz et Max Verstappen, donc s'est retrouvé dixième. Un très mauvais départ par contre, il s'est retrouvé 14e après le premier tour, Gasly, et ensuite quand même fait de très beaux dépassements. Par contre, en course aussi pour Esteban Ocon, c'était bien. C'est quand même une huitième place. Ce sont quand même des points que Alpine va aller chercher, mais c'est pas les gros points qu'on l'espérait, genre Monaco. Je crois que il reste encore du travail, mais ça s'en vient. Et je pense que si ça continue, ben Alpine va me faire mentir sur l'épisode qu'on avait consacré il y a de cela quelques semaines. Surtout après la gueulante que Laurent Rossi a émis après le Grand Prix de Miami. Donc, je crois que il reste encore un petit peu plus, là, mais on est loin encore du compte chez Alpine.
Oui, tout à fait. Donc, bonne course des deux pilotes français dans les circonstances, tu l'as mentionné. Pierre Gasly qui a eu un départ misérable mais qui finalement a été en mesure de remonter dans les points pour en obtenir un via une 10e place. Esteban Ocon de son côté obtient une 8e place et donc 4 points si ma mémoire est la bonne pour une 8e place. Oui, donc c'est 4 points. Esteban Ocon est désormais à 25 points au total devant Pierre Gasly qui de son côté est en 10e position dans le championnat des pilotes avec 15 points.
Ouais.
Donc des belles performances de la part d'Esteban Ocon. Tu vois, je croyais de mon côté que Pierre Gasly allait être allait, bon, sans dire être le pilote numéro un, parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait un jeu de pilote numéro un ou numéro deux chez Alpine. Mais Esteban Ocon, qui est vraiment en mesure de faire valoir tout son talent, devient un Pierre Gasly dont les performances au cours de sa carrière ont été non négligeables. Une écurie qui doit cependant encore travailler, ça c'est certain, si elle souhaite être en mesure de demeurer devant McLaren. Mais pour l'instant, ça semble pas être trop compliqué, là, au sens que Alpine a quand même 40 points devant McLaren qui a 17 points. C'est un écart qui, pour de telles écuries, est assez immense. Donc, effectivement, de belles performances de la part de l'écurie qui a obtenu son premier podium la semaine dernière.
Effectivement. Et je dois dire, par contre, on a une petite nouvelle de dernière minute. Il est 12h39. Je vais le dire tout de suite. Ça risque d'être mis à jour. Heure de l'Est, merde. Effectivement. Mercedes est convoqué par les commissaires du Grand Prix d'Espagne en raison de la présence de préparateurs physiques de Lewis Hamilton et de George Russell dans le parc fermé à l'issue de la course. Donc, non, parce que...
Oh t'as... non.
Oui, c'est reparti pour un cirque, mais moi, j'espère que ça va être juste une amende plutôt que des pénalités de position. Parce que normalement, t'as pas le droit d'avoir des préparateurs physiques dans le parc fermé une fois que la course est terminée. Donc, moi, je le souhaite qu'il y ait des juste une amende, parce que sinon, là, ça va encore faire un sacré shit show après le Grand Prix.
Oui, tout à fait. Puis, on s'entend que c'est une c'est une infraction qui est tellement, mais tellement évitable. Là, je comprends pas comment ça peut se produire du côté de Mercedes, elle qui est pourtant, qui se connaît énormément en réglementation. Je souhaite également là, que ce soit tout simplement peut-être une amende. Je pense que ça reflèterait, le préjudice, tiens, que subit la FIA via la douloureuse infraction de Mercedes. Donc, oui, une amende, mais d'un autre côté, on s'entend que les règles dans le parc fermé sont pratiquement sacrées, hein, pour la Formule 1.
Ouais.
Et puis, ça mène souvent à une interprétation excessivement rigide des sanctions à appliquer. Donc, je pense que si tu peux nous tenir informés de tout ça, j'en serais très heureux.
Ouais, on vous tiendra au courant si jamais il y a mise à jour concernant cela. Donc, je vous rappelle que l'écurie Mercedes a été convoquée par la FIA pour présence de préparateurs physiques dans le parc fermé tout de suite après le Grand Prix d'Espagne. Alors, c'est ce qui complète cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix d'Espagne qui est remporté par Max Verstappen. On aura évidemment la prochaine course, c'est chez nous, à Montréal. Et on a super, super hâte. Julien, je vais te faire une belle plug, parce que vous savez, chez Julien et son frère Émile sont les cofondateurs du groupe Facebook La Monoplace. Et maintenant, il y a de la merch. Hein, Julien? Il y a de la belle merch.
Tout à fait. Donc, ça vient répondre à une demande qui a été faite par plusieurs personnes qui nous avaient vu, donc nous, modérateurs et administrateurs, porter des chandails que j'avais fait faire par un des membres du groupe qui s'appelle Alex Pelletier, une entreprise d'impression dont le nom est le Traco. Et puis, on s'était fait faire des chandails là, que j'avais offert aux modérateurs, tout ça. Plusieurs les avaient vus, nous en avaient demandé. Donc, on a décidé de rendre le tout accessible avec même certains produits différents. Donc, deux types de chandails et deux ou trois types de casquettes, si je me rappelle bien. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour commander le tout sur notre site Internet qui est tout simplement lamonoplace en un mot.com.
Et d'ailleurs, il y a même... Il y a les chandails, comme ceux que nous avons, mais aussi des belles casquettes. Et d'ailleurs, j'ai commandé une casquette que j'ai hâte de recevoir pour le Grand Prix du Québec. Que j'ai hâte de recevoir parce qu'elle est super belle. Donc, allez visiter lamonoplace.com pour avoir de la belle merch. Et évidemment, vous joindre au groupe Facebook La Monoplace aussi. Et d'ailleurs, je tiens à profiter pour dire que je serai absent pour l'épisode de la semaine. Et ce sera justement Mr. Légaré Turcotte qui va me remplacer. Donc, Julien, je te tends le flambeau pour cette semaine. Et je sais que tu vas faire un excellent job.
Je vais en profiter pour aborder tous les sujets les plus controversés. Donc, on va revenir sur Abu Dhabi 2021. Non, c'est pas vrai.
Par contre, je tiens à préciser que je m'occupe du montage. Donc, tout ce qui commence par Michael, par Massey, tout ce qui est australien, par Daniel Ricciardo, sera coupé au montage. et Antonio Giovinazzi aussi.
Ah, ça, c'est malheureux. J'essaie de pas trop en faire mention, mais oui, donc je te remercie, Aldo, pour ta confiance et puis ça va me faire plaisir là, d'animer le tout. Le sujet sera évidemment dévoilé lors de la publication du podcast.
Exactement. Et évidemment, ben, bulletingGP.com, Facebook, Twitter, Instagram, @lebulletinGP, ainsi que toutes vos plateformes de podcast préférées où vous écoutez vos podcasts. Parce qu'on va revenir le sujet de la semaine et en plus de l'après-course du bulletin GP. Alors, Julien, un énorme merci pour ta présence.
Merci à toi, Abdou. Toujours un plaisir de participer à ton podcast.
C'est une gang de pas bons là-dedans.
Et sur ces paroles de Madame Monique Jérôme Forget, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Ben, moi, je vais vous retrouver la semaine d'après pour l'émission d'après-course du Grand Prix du Canada. Mais la semaine prochaine, ce sera Julien à l'animation du Bulletin GP, l'épisode hebdomadaire. Salut tout le monde!